Chapitre 3 L'homme d'outre-mer. Je n'étais point homme à rester assis et geignant près d'une cruche cassée. Quand il n'y a pas moyen de la raccommoder, le rôle qui convient à un homme, c'est de n'en plus parler. Pendant des semaines, j'eus le cœur endolori, et j'avoue qu'il l'est encore un peu, quand j'y pense après tant d'années et un heureux mariage. Mais je me donnais l'air de prendre bravement la chose, et avant tout, je tins la promesse que j'avais faite le jour de la promenade sur la côte. Je fus pour elle un frère, rien de plus. Pourtant, il m'arriva plus d'une fois de me sentir dans la nécessité de tirer durement sur le mort. Même alors elle tournait autour de moi avec ses façons câlines, ces histoires que Jim était bien rude avec elle et combien elle avait été heureuse au temps où j'étais bien disposé pour elle. Il lui fallait parler ainsi et elle avait cela dans le sang et ne pouvait agir autrement. Mais presque tout le reste du temps, Jim et elle étaient fort heureux. Dans tout le pays, on disait que le mariage aurait lieu dès qu'il serait reçu docteur. Alors il viendrait passer 4 nuits par semaine à West Inch avec nous. Mes parents en étaient contents et je faisais de mon mieux pour être content de mon côté. Il y eut peut-être un peu de froideur entre lui et moi dans les commencements. Oh, ce n'était plus de lui à moi cette vieille amitié de camarade d'école. Mais plus tard, quand la douleur fut passée, il me semble qu'il avait agi avec franchise et que je n'avais pas de juste motif pour me plaindre de lui. Nous étions donc restés amis jusqu'à un certain point. Il avait oublié toute sa colère contre elle. Il eut baisé l'empreinte laissée par ses souliers dans la boue. Nous faisions souvent ensemble, lui et moi, de longues promenades. C'est de l'une de ces courses que je me propose de vous parler. Nous avions dépassé Brompton House et contourné le bouquet de pins qui abrite contre le vent de mer la maison du major Elliott. On était alors au printemps. La saison était en avance, de sorte qu'à la fin d'avril, les arbres étaient déjà bien en feuilles. Il faisait aussi chaud qu'en un jour d'été. Aussi fûmes-nous extrêmement surpris de voir un immense brasier grondant sur la pelouse qui s'étendait devant la porte du major. Il y avait là la moitié d'un pin et les flammes jaillissaient jusqu'à la hauteur des fenêtres de la chambre à coucher. Jim et moi, nous ouvrions de grands yeux, mais nous fûmes bien autrement surpris de voir le major sortir un grand pot d'un quart à la main, suivi de sa sœur, vieille dame qui dirigeait son ménage, de deux des bonnes et toute la troupe gambadée autour du feu. C'était un homme très doux, tranquille, comme on le savait dans tout le pays, et voilà qu'il se prenait le rôle du vieux Nick à la danse du sabbat, qu'il tournait en clopinant et brandissant sa pinte au-dessus de sa tête. Nous arrivâmes au pas de course. Il n'en mit que plus d'entrain à l'agiter quand il nous vit approcher. « La paix » brillait-il. « Hurrah, mes enfants, la paix !» À ces mots, nous nous mîmes aussi à danser et chanter, car depuis si longtemps que nous avions perdu le souvenir, on ne parlait que de guerre. On était excédés. L'ombre avait plané si longtemps au-dessus de nous que nous étions tout étonnés de sentir qu'elle avait disparu. Vraiment, c'était un peu trop fort à croire, mais le major dissipa nos doutes par son dédain. « mais oui, c'est vrai » s'écria-t-il en s'arrêtant et appuyant la main sur son côté. Les Alliés ont occupé Paris. Bonnet a jeté le manche après la cognée. Et tous ces hommes jurent fidélité à Louis XVIII. Et l'empereur, demandai-je, est-ce qu'on l'épargnera? Oh, une question de l'envoyer à l'île d'Elbe où il sera fort d'état de nuire. Mais ces officiers, oh, il en est qui ne s'en tireront pas à aussi bon compte. Il a été commis pendant ces derniers 20 ans des actes qui n'ont point été oubliés, et il y a encore quelques vieux comptes à régler. Mais c'est la paix, la paix! Et il se remit à ses gambades, le pot en main, autour de son feu de joie. Nous passâmes quelques instants avec le major. Puis nous descendîmes, Jim et moi, vers la plage, en causant de cette grande nouvelle et de ce qui s'en suivrait. Il savait peu de choses. Moi, je ne savais presque rien. Mais nous ajustâmes tout cela. Nous dîmes que les prix de toutes choses baisseraient, que nos braves gaillards reviendraient au pays, que les navires iraient où ils voudraient, en sécurité, que nous démolirions tous les signaux de feu établis sur la côte, car désormais, nul ennemi n'était à craindre. Tout en causant, nous nous promenions sur le sable blanc et ferme, et nous regardions l'antique mer du Nord. Et Jim, qui allait à grands pas près de moi, si plein de santé et d'ardeur, il ne se doutait guère qu'à ce moment même, il avait atteint le point culminant de son existence et que désormais, il ne cesserait de descendre la pente. Il flottait sur la mer une légère buée, car les premières heures de la matinée avaient été très brumeuses et le soleil n'avait pas tout dissipé. Comme nos regards se portaient vers la mer, nous vîmes tout à coup émerger du brouillard la voile d'un petit bateau qui arrivait du côté de la terre en se balançant. Un seul homme était assis à la manœuvre, et le bateau louvoyait comme si l'homme avait de la peine à se décider pour atterrir sur la plage ou s'éloigner. À la fin, comme si notre présence lui fait prendre son parti, il piqua droit vers nous et sa quille se froissa contre les galets juste à nos pieds. Il laissa tomber sa voile, sauta dehors et traîna l'avant sur la plage. « Grande-Bretagne, je crois, » dit-il en faisant promptement demi-tour pour s'adresser à nous. C'était un homme de taille un peu au-dessus de la moyenne, mais d'une maigreur excessive. Il avait les yeux perçants, très rapprochés, entre lesquels se dressait un nez long et tranchant, au-dessus d'un buisson de moustache brune, aussi raide, aussi dure que celle d'un chat. Il était vêtu fort convenablement d'un costume brun à boutons de cuivre et chaussé de grandes bottes que l'eau de mer avait durcies et rendues fort rugueuses. Il avait la figure et les mains d'un teint si foncé qu'on aurait pu le prendre pour un Espagnol, mais quand il leva son chapeau pour nous saluer, nous vîmes que son front était très blanc et que la nuance si foncée de son teint n'était que superficielle. Il était ainsi allongé, avec son nez proéminent, sa moustache de chat, mais les lèvres exsangues, la respiration si faible qu'elle eut à peine agité une plume. « Mais il se meurt, Jim » m'écriai-je. « Oui, il meurt de faim et de soif. Il n'y a pas une miette de pain dans le bateau. Peut-être y a-t-il quelque chose dans le sac. » Il s'élança et rapporta un sac noir en cuir. avec un grand manteau bleu, c'étaient les seuls objets qui se trouvassent dans le bateau. Le sac était fermé, mais Jim l'ouvra en un instant. Il était à moitié plein de pièces d'or. Ni lui ni moi, nous n'en avions jamais vu autant, non pas même la dixième partie. Il devait y en avoir des centaines. C'étaient des souverains anglais, tout brillants, tout neufs. À vrai dire, cette vue nous avait si fortement intéressés que nous ne songions plus du tout à leur possesseur jusqu'au moment où il nous rappela près de lui par une plainte. Il avait les lèvres plus bleues que jamais, sa mâchoire inférieure retombait, ce qui me permit de voir sa bouche ouverte et ses rangées de dents blanches comme les dents de loup. « Mon Dieu, il passe !» cria Jim. « Par ici, Jack, courez au ruisseau et rapportez de l'eau dans votre chapeau. Vite, l'ami, où il est perdu ! En attendant, je lui fais ses vêtements. » Je partis en courant et je revins au bout d'une minute, rapportant autant d'eau qu'il pouvait en tenir dans mon Glengarry. Jim avait déboutonné l'habit et la chemise de l'homme. Nous répandîmes de l'eau sur lui et nous en fîmes pénétrer quelques gouttes entre les lèvres. Cela produisit un bon effet, car après deux ou trois fortes inspirations, il se mit sur son séant et se frotta lentement les yeux comme un homme qui sort d'un sommeil profond. Mais à ce moment-là, ce n'était point sa figure que Jim et moi nous considérions. C'était sa poitrine découverte. On y voyait deux enfoncements profonds et rouges, l'un juste au-dessous de la clavicule et l'autre à peu près au milieu du côté droit. La peau de son corps était extrêmement blanche jusqu'à la ligne brune du cou. Aussi les trous froncés et rouges n'en apparaissait-il que plus nettement sur la teinte générale. D'en haut, je pus voir qu'il y avait une dépression correspondante dans le dos à un endroit, mais qu'il n'y en avait point pour l'autre. Si dépourvu d'expérience que je fusse, je pouvais dire ce que cela signifiait. Deux balles avaient pénétré dans sa poitrine. L'une d'elles l'avait traversée et l'autre y était restée. Mais il se mit debout brusquement, tout en chancelant, et rabattit sa chemise d'un air soupçonneux. « Qu'est-ce que j'ai fait ? » dit-il. « Ai-je perdu la tête ? Faites pas attention à ce que j'ai pu dire, à ce que j'ai crié. Vous avez crié au moment même où vous êtes tombé. Et qu'est-ce que je criais ? Je lui répétais, quoique ce fussent des mots à peu près dépourvus de toute signification pour moi. Il nous regarda fixement l'un après l'autre, puis haussa les épaules. « Bon, ça fait partie d'une chanson, dit-il. Bon, me pose cette question. Que vais-je faire à présent ? Je ne serai pas crucifiable. Où êtes-vous allé prendre cette eau ? Je lui montrai le ruisseau vers lequel il se dirigea d'un pas incertain. Là, il s'étendit sur le ventre et se mit à boire, si longtemps que je crus qu'il n'en finirait pas. Son long cou plissé se tendait comme celui d'un cheval, et il faisait à chaque gorgée un fort bruit de lapement avec ses lèvres. Enfin, il se leva en poussant un grand soupir, et essuya sa moustache avec sa manche. « Ça va mieux, » dit-il. « Avez-vous quelque chose à manger ?» J'avais mis dans ma poche, avant de partir, deux morceaux de galettes. Il se les fourra dans la bouche et il les avala. Puis il sortit les épaules, fit bomber sa poitrine, et se caressa les côtes de la paume de sa main. Là, je suis sûr que je vous dois beaucoup, dit-il. Vous avez été très bon pour un inconnu. Mais je vois que vous avez eu l'occasion d'ouvrir ma sacoche. Mais nous comptions y trouver du vin et de l'eau de vie quand vous avez perdu connaissance. Bon, je n'ai pas grand-chose là-dedans. Tout au plus, comment dites-vous cela? Quelques économies. Ce n'est pas une grosse somme, mais il faudrait que j'en vive tranquillement jusqu'à ce que je trouve quelque chose à faire. D'ailleurs, il me semble qu'on pourrait vivre ici assez tranquillement. Il m'aurait été impossible de tomber sur un pays plus paisible où il n'y a peut-être pas l'ombre d'un gendarme à cette distance de la ville. Vous ne nous avez pas encore dit qui vous êtes, d'où vous venez, ni ce que vous avez été, dit Jim d'un ton rébarbatif. L'étranger le toisa, les pieds à la tête, d'un air connaisseur. Ma parole, dit-il, même vous feriez un grenadier pour une compagnie de flancs. Quant aux questions que vous me faites, j'aurais le droit de m'en fâcher s'il s'agissait de tout autre que vous, mais vous avez le droit d'être renseigné après m'avoir traité avec tant de courtoisie. Je me nomme Bonaventure de Lappe. Je suis soldat et voyageur de profession, et je viens de Dunkerque, ainsi que vous pouvez le voir en grosses lettres sur le bateau. Oh, je croyais que vous aviez fait naufrage, dis-je. Mais il me lança ce regard direct qui décèle l'honnête homme. C'est vrai, mais le navire était de Dunkerque et ce bateau est une de ses chaloupes. L'équipage est parti sur le grand canot. Le navire a coulé si rapidement que je n'ai eu le temps de rien embarquer. C'était lundi. Ah, et nous voici au jeudi. Vous êtes resté 3 jours sans aliments ni boissons. C'est trop long, dit-il. Déjà, je me suis trouvé en pareille situation, mais jamais si longtemps que cela. Eh bien, je vais laisser mon bateau ici, aller voir si je peux trouver un logement dans quelqu'une de ces maisonnettes grises sur la pente de la côte. Qu'est-ce que c'est que ce grand feu qui flambe par là-bas? C'est chez un de nos voisins qui a servi contre les Français. Il se réjouit parce que la paix a été conclue. Ah, vous avez un voisin qui a servi. J'en suis content, car de mon côté, j'ai fait un peu la guerre ici et là. Il n'avait point l'air content, car il avait froncé ses sourcils très bas sur ses yeux perçants. Vous êtes français, n'est-ce pas? Demandai-je pendant que nous descendions ensemble. Il tenait à la main sa sacoche noire et avait jeté sur son épaule son grand manteau bleu. Oh, je suis alsacien, dit-il. Et vous savez que les Alsaciens sont plus allemands que français. Pour moi, j'ai été dans tant de pays que je me trouve chez moi, n'importe où. J'ai été grand voyageur, et où pensez-vous que je pourrais trouver un logement? Il me serait bien difficile de dire maintenant, en jetant les yeux par-dessus ce grand intervalle de 35 ans qui s'est écoulé depuis lors, quelle impression avait faite sur moi ce singulier personnage. Il m'avait inspiré, je crois, de la défiance, et pourtant, il exerçait sur moi de la fascination. Il y avait en effet dans son port, dans son air, dans toutes ses façons de s'exprimer, je ne sais quoi qui différait entièrement de tout ce que j'avais lu jusqu'alors. Jim Horscroft était un bel homme, et le major Elliot un homme brave, mais il manquait à tous deux quelque chose que possédait cet inconnu. C'était ce coup d'œil alerte et vif, cet éclat des yeux, cette distinction indéfinissable à décrire. Puis nous l'avions sauvé, alors qu'il gisait, respirant à peine sur les galets, et on a toujours le cœur tendre envers un homme à qui l'on a rendu service. Si vous voulez venir avec moi, dis-je, je suis à peu près sûr de vous trouver un lit pour une nuit ou deux. Pendant ce temps-là, vous serez mieux en mesure de faire vos arrangements. Il ôta son chapeau et s'inclina avec toute la grâce imaginable. Mais Jim Roscoff me tira par la manche et m'entraîna à l'écart. « Mais vous êtes fou, Jack, me dit-il tout bas. Cet individu n'est qu'un aventurier ordinaire. Qu'est-ce qui vous prend de vouloir vous mêler de ses affaires ?» Mais j'étais l'être le plus obstiné qu'on ait jamais chaussé une paire de bottes, et la plus sûre façon de me faire aller en avant, c'était de me tirer en arrière. « C'est un étranger, dis-je, et notre devoir est de veiller sur lui, dis-je. « Vous en serez fâché, dit-il. « Hein, cela se peut. « Mais si cela ne vous fait rien, au moins, vous pourriez penser à votre cousine Eddie. Oh, Eddie est parfaitement capable de se garder elle-même. « Eh bien alors, que le diable vous emporte et faites comme il vous plaira !» s'écria-t-il en un de ses brusques accès de colère. Et sans ajouter un mot, pour prendre congé l'un de l'autre, nous, il fit demi-tour et partit par le sentier qui montait du côté de la maison de son père. Bonaventure de Lap me regarda en souriant, pendant que nous descendions ensemble. « Ben, je crois bien que je lui ai guère plu, dit-il. Je vois très bien qu'il vous a cherché querelle parce que vous m'emmeniez chez vous. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il se figure par hasard que j'ai volé l'or que j'ai dans ma sacoche? Ou bien qu'est-ce qu'il craint? Peu, lui dis-je, je n'en sais rien. Et cela m'est égal. » Pas un étranger ne passera à notre porte sans avoir du pain et un lit.
Un aigle sans asile. Mon père me parut être presque de l'avis de Jim Horscroft, car il ne montra pas un empressement extrême à l'égard de ce nouvel hôte. Il le toisa du haut en bas d'un air très interrogateur. Il lui servit cependant une assiette de hareng au vinaigre, et je remarquai qu'il lui jeta un regard encore plus de travers en voyant mon compagnon en manger neuf. Notre ration se réduisait toujours à deux. Lorsque Bonaventure de Lap eut fini, ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes, car je crois bien que pendant ces 3 jours, il n'avait pas plus dormi qu'il n'avait mangé. C'était une bien pauvre chambre que celle où je le conduisis, mais il se jeta sur le lit, s'enveloppa de son grand manteau et s'endormit aussitôt. Il avait un ronflement puissant et sonore, et comme ma chambre était contiguë à la sienne, j'eus lieu de me rappeler que nous avions un hôte sous notre toit. Le lendemain matin, quand je descendis, je m'aperçus qu'il m'avait devancé, car il était assis en face de mon père à la table de l'embrasure de la fenêtre, dans la cuisine, leurs têtes se touchant presque, et il y avait entre eux un petit rouleau de pièces d'or. À mon entrée, mon père se leva sur moi les yeux où je vis un éclair d'avidité que je n'y avais jamais remarqué jusqu'alors. Il empoigna l'argent d'un mouvement d'avare et l'empocha aussitôt. « Très bien, monsieur, la chambre est à vous et vous paierez toujours d'avance, le 3 du mois. » « Ah, voici mon premier ami !» s'écria de Lap en me tendant la main et m'adressant un sourire assez bienveillant, sans doute, mais où il y avait cette nuance d'air protecteur qu'on a quand on sourit à son chien. me voilà tout à fait remis à présent. Grâce à mon excellent souper et au repos d'une bonne nuit, reprit-il. Ah, c'est la faim qui ôte à l'homme toute énergie. Cela d'abord, le froid ensuite.
Oui, c'est vrai, dit mon père, je me suis trouvé sur la lande dans une tempête de neige pendant 36 heures, et je sais ce que c'est.
J'ai vu mourir de faim 3 000 hommes, dit de Lap en approchant ses mains du feu. De jour en jour, ils maigrissaient et devenaient plus semblables à des singes. Ils venaient presque sur les bords des pontons où nous les gardions. Ils hurlaient de rage et de douleur. Les premiers jours, leur hurlement s'entendait dans toute la ville, mais au bout d'une semaine, nos sentinelles de la rive les entendaient à peine tant ils s'étaient affaiblis.
« Et ils moururent ? » m'écriai-je.
« Ils résistèrent pendant très longtemps. C'étaient des grenadiers autrichiens du corps de Stalowitz, de grands beaux hommes aussi gros que votre ami d'hier. Mais quand la ville se rendit, il n'en restait plus que 400, et un homme pouvait en soulever 3 à la fois, comme si c'était des petits singes. Cela faisait pitié. Ah, mon ami, voudrez-vous me présenter à madame et à mademoiselle ?
C'était ma mère et Eddie qui venaient d'entrer dans la cuisine. Ils ne les avaient pas vus la veille, mais cette fois-ci, j'eus toutes les peines du monde à garder mon sérieux, car au lieu de bien faire en guise de salut un simple signe de tête à la mode écossaise, il courba son dos comme une truite qui va sauter. Il avança le pied par une glissade et mit la main sur son cœur, de l'air le plus drôle. Ma mère ouvrait de grands yeux, croyant qu'il se moquait d'elle, mais Eddie se montra aussitôt enchanté. On eût dit que c'était un jeu pour elle, et elle se mit à faire une révérence, mais une révérence si profonde que je la crus un instant sur le point de tomber, de s'asseoir bel et bien au milieu de la cuisine. Mais non, elle se redressa aussi légèrement qu'un rembourrage qui fait ressort. Nous approchâmes tous nos chaises et l'on fit honneur aux galettes servies avec le lait et la bouillie. Il avait eu de merveilleuses manières de se conduire avec les femmes, ce gaillard-là. Si moi ou bien Gibbscroft, nous avions fait comme lui, nous aurions eu l'air de faire les imbéciles et les filles nous auraient éclaté de rire au nez, mais pour lui, cela allait si bien avec son genre de physionomie et de langage qu'on en venait enfin à trouver cela tout naturel. En effet, quand il s'adressait à ma mère ou à la cousine Eddie, et pour cela il ne se faisait jamais prier, il ne le faisait jamais sans être à s'incliner, sans prendre un air à faire croire qu'elle lui faisait grand honneur, rien qu'en écoutant ce qu'il avait à dire. Et lorsqu'elle répondait, on eût cru avoir sa physionomie, que leurs paroles étaient précieuses et dignes d'être conservées à tout jamais. Et pourtant, même quand il s'abaissait devant les femmes, il gardait toujours au fond des yeux je ne sais quoi de fier, comme pour donner à entendre que c'était pour elle seule qu'il se faisait aussi doux, mais qu'à l'occasion, il savait faire preuve d'assez de raideur. Pour ma mère, c'était merveille de voir combien elle s'adoucit à son égard. En une demi-heure, elle le mit au fait de toutes nos affaires, lui parla de son oncle à elle, qui était chirurgien à Carlisle, et le plus grand personnage de la ville de son côté. Elle lui raconta la mort de mon frère Rob, événement que je n'avais jamais entendu dire à âme qui vive, et alors on eût cru que le Lap allait verser des larmes à cette occasion, lui qui venait justement nous dire qu'il avait vu 3 000 hommes mourir de faim. Quant à Eddie, elle ne causait pas beaucoup, mais elle lançait incessamment de petits coups d'œil à notre hôte, et une fois ou deux, il la regarda très fixement. Après le déjeuner, quand il fut rentré dans sa chambre,
Mon père tira de sa poche 8 pièces d'or d'une guinée et les étala sur la table.
Qu'est-ce que vous dites de cela, Marthe ? Fit-il.
Eh bien, c'est que vous aurez vendu 2 béliers noirs, voilà tout.
Non ! C'est un mois de paiement pour la nourriture et le logement de l'ami de Jack. Et il en rentrera autant toutes les 4 semaines.
Mais en entendant cela, ma mère hocha la tête.
2 livres par semaine ? Oh, c'est beaucoup trop, dit-elle. Ce n'est pas alors que le pauvre gentleman est dans le malheur que nous devons lui faire payer ce prix pour un peu de nourriture.
Ta, 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 s'écria mon père, il peut très bien le faire sans se gêner. Il a une sacoche pleine d'or. En outre, c'est le prix qu'il a offert lui-même.
Mais cet argent n'apportera pas bonheur, dit-elle.
« Mais ma femme, vous a-t-il mis la tête à l'envers avec ses façons d'étranger ?»«
Oui, il serait bon que les maris écossais eussent quelque peu de ces manières prévenantes, » fit-elle.
C'était la première fois de ma vie que je l'entendis riposter à mon père. Delappe ne tarda pas à descendre et me demanda si je voulais sortir avec lui. Lorsque nous fûmes au soleil, il tira de sa poche une petite croix faite en pierre rouge, la chose la plus charmante que j'eusse encore vue.
« Ce sont des rubis, dit-il, et j'ai eu cela à Tulen, en Espagne. Il y en avait 2, mais j'ai donné l'autre à une jeune fille de Lituanie. Allez, je vous prie d'accepter celle-ci en souvenir. » De la grande bonté que vous avez eue hier pour moi, vous en ferez faire une épingle de cravate.
Je ne pus faire autrement que de le remercier de ce présent qui valait plus que tout ce que j'avais possédé en ma vie.
Je pars pour aller compter les agneaux sur le pâturage d'en haut, lui dis-je. Peut-être vous plairait-il de venir avec moi et de voir un peu le pays. Il eut un instant d'hésitation, puis il secoua la tête. « Oh, j'ai, dit-il, quelques lettres à écrire le plus tôt possible. Je compte passer la matinée chez moi pour m'acquitter de cette tâche. »
Pendant toute la matinée, j'allais, je vins sur les hauteurs, et comme vous le croirez sans peine, je n'eus l'esprit occupé que de cet étranger que le hasard avait jeté à notre porte. Où avait-il appris ces manières, cet air de commandement, cet éclat hautain et menaçant du regard? Et ces aventures auxquelles il faisait allusion d'un air si détaché, quelle étonnante existence que celle où elles avaient trouvé place! Il avait été bon pour nous, il avait usé d'un langage plein d'amabilité, et malgré tout, je n'arrivais pas à chasser entièrement la défiance que j'avais éprouvée à son égard. Peut-être, après tout, Jim Ashcroft avait-il raison. Peut-être avais-je eu tort de l'introduire à West Inch. Quand je rentrais, il avait l'air d'être né et d'avoir vécu dans sa ferme. Il était assis dans ce vaste fauteuil au bras de bois qui occupe le coin de la cheminée, et il avait le chat noir sur ses genoux. Il tenait les bras étendus, et d'une main à l'autre allait un écheveau de laine à tricoter, dont ma mère faisait un peloton. La cousine Eddie était assise tout près, et en voyant ses yeux, je m'aperçus qu'elle avait pleuré. « Eh bien, Eddie, lui dis-je, « qu'est-ce qui vous chagrine ?»« Ah, mademoiselle a le cœur tendre, comme toutes les vraies et honnêtes femmes, » dit-il. « Je n'aurais pas cru que la chose pût l'émouvoir à ce point, autrement, n'en aurait point parlé. Je comptais les souffrances de quelques troupes qui avaient à traverser pendant l'hiver les montagnes de la Guadarrama, dont je sais quelque chose. Il est bien étrange de voir le vent emporter les hommes par-dessus le bord des précipices. Mais le sol était bien glissant, il n'y avait rien à quoi ils pussent se retenir. Les compagnies entrecroisèrent leurs bras, et cela alla mieux de cette façon, mais la main d'un artilleur resta dans la mienne, comme je la prenais, elle était gangrenée par le froid depuis 3 jours. Je restais à écouter bouche béante. Et les vieux grenadiers aussi, comme ils n'avaient plus leur ardeur d'autrefois, ils avaient peine à résister. Et pourtant, s'ils restaient en arrière, les paysans les prenaient, les clouaient à la porte de leur grange, les pieds en haut et allumaient du feu sous leur tête. C'était pitié de voir ainsi périr ces braves vieux soldats. Aussi, quand ils ne pouvaient plus avancer, c'était intéressant de voir comment ils s'y prenaient. Ils s'arrêtaient, faisaient leurs prières, assis sur une vieille selle ou sur leur havresac, ôtaient leurs bottes et leurs bas et appuyaient leur menton sur le bout de leur fusil. Puis mettaient leurs gros orteils sur la détente et pouf, c'était fini. Plus de marche pour ces beaux vieux grenadiers. Oh, on en a eu une rude besogne par là-bas, sur ces montagnes du Guadarrama. Et quelle armée était-ce ? Demandai-je. Oh, j'ai été dans tant d'armées que je lui embrouille quelquefois. Oui, j'ai beaucoup vu la guerre. À propos, j'ai vu vos Écossais se battre. Ils font de rudes fantassins, mais je croyais d'après cela que tout le monde ici portait des... Comment vous appelez ça ? Des jupons, des... Alors, ce sont des kilts, et cela ne se porte que dans les Highlands. Ah, dans les montagnes, oui, mais... Ah, voici là-bas, dehors, un homme. Peut-être est-ce celui qui se chargerait de porter mes lettres à la poste, ce qu'a dit votre père. Oui, oui, c'est le garçon du fermier Whitehead. Voulez-vous que je les lui donne? Oui, il en prendrait plus de soin s'il les recevait de votre main. Il les tira de sa poche et me les remit. Je sortis aussitôt avec ses lettres et, chemin faisant, mes regards tombèrent sur l'adresse que portait l'une d'elles. Il y avait en très grosse et très belle écriture « À Sa Majesté, le roi de Suède, Stockholm ». Je ne savais pas beaucoup de français, mais assez toutefois pour comprendre cela. Quelle était donc cette sorte d'aigle qui était venue se poser dans notre humble petit nid ? La tour de garde de Corremuir. Ce serait un ennui pour moi, et aussi, j'en suis très certain, un ennui pour vous, si j'entreprenais de vous raconter le menu de notre existence depuis le jour où cet homme vint sous notre toit, ou de quelle façon il en vint à gagner peu à peu notre affection à tous. Avec les femmes, ce ne fut pas une tâche bien longue, mais il ne tarda pas à dégeler mon père lui-même, chose qui n'était pas des plus aisées. Il avait même fait la conquête de Gibbsthorpe aussi bien que la mienne. À vrai dire, nous n'étions guère à côté de lui que 2 grands enfants, car il était allé partout, il avait tout vu, et quand il avait passé une soirée à jaser en son anglais boiteux, il nous avait emportés bien loin de notre simple cuisine, de notre maisonnette rustique, pour nous jeter au milieu des cours, des corps, des champs de bataille, de toutes les merveilles du monde. Horscroft avait d'abord été assez maussade avec lui, mais de Lappe, par son tact, par l'aisance de ses manières, l'avait bientôt séduit, avait entièrement conquis son cœur, si bien que voilà Jim assis, tenant dans sa main la main de la cousine Eddie, et tous deux perdus dans l'intérêt qu'ils prenaient à écouter tous les récits qu'ils nous faisaient. Je ne vais pas vous conter tout cela, mais aujourd'hui encore, après un si long intervalle, Je pourrais vous dire comment, d'une semaine, d'un mois à l'autre, par telle ou telle parole, telle ou telle action, il arriva à nous rendre tels qu'il voulait. Un de ses premiers actes fut de donner à mon père le canot dans lequel il était venu, en ne se réservant que le droit de le reprendre s'il venait à en avoir besoin. Les harengs vinrent fort près de la côte cette année-là, et avant sa mort, mon oncle nous avait donné un bel assortiment de filets, de sorte que ce présent nous rapporta bon nombre de livres. Quelquefois, de l'âpe s'y embarquait seul, et je l'ai vu pendant tout un été, ramant lentement, s'arrêtant tous les 5 ou 6 coups de rame pour jeter une pierre attachée au bout d'une corde. Je ne compris rien à sa conduite, jusqu'au jour où il me l'expliqua de son propre gré. « J'aime à étudier tout ce qui a du rapport aux choses de la guerre, dit-il, et je n'en ai jamais échappé une occasion. Je me demandais s'il serait difficile à un commandant de corps d'armée d'opérer un débarquement ici. Si le vent ne venait pas de l'est, dis-je. Oui, c'est bien cela. Si le vent ne venait pas de l'est. Avez-vous pris des sondages ici? Non. Votre ligne de vaisseau de guerre serait forcée de se tenir au large, mais il y a ici assez d'eau pour qu'une frégate de 40 canons puisse approcher jusqu'à la portée de fusil. Bandez vos canons de tirailleurs, déployez-les derrière ces dunes de sable, puis soutenez, et en lançant encore d'autres, en lançant des frégates, une pluie de mitraille par-dessus leur tête. Cela pourrait se faire. Cela pourrait se faire. Ses moustaches raides comme celles d'un chat se hérissèrent plus que jamais, et je pus voir à l'éclat de son regard qu'il était emporté par ses rêves. « Mais vous oubliez que nos soldats seraient sur la plage, » dis-je avec indignation. « Ta 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 !» s'écria-t-il. « Naturellement, pour une bataille, il faut être deux. Voyons maintenant, raisonnons la chose. » Combien d'hommes pouvez-vous mettre en ligne? Oh, dirons-nous 20 000, 30 000. Quelques régiments de bonnes troupes le reste pour des conscrits, des bourgeois armés. Comment appelez-vous ça, des volontaires? Des gens courageux, cria-t-il. Oh oui, très vrai, mais des imbéciles. Oh mon Dieu, on ne saurait dire à quel point ils seraient imbéciles. Non, pas eux seulement, mais toutes les jeunes troupes. Elles ont tellement peur d'avoir peur qu'elles ne prendraient aucune précaution. Ah, j'ai vu cela en Espagne, j'ai vu un bataillon de conscrits attaquer une batterie de 10 pièces. Il fallait voir comme ils avançaient bravement, si bien que de l'endroit où je me trouvais, la montée avait l'air, comment appelez-vous cela en anglais, avait l'air d'une tarte aux framboises. Et notre beau bataillon de conscrits, qu'était-il devenu? Puis un autre bataillon de jeunes troupes tenta l'assaut. Alors ils partirent au pas de course, criant, hurlant tous ensemble. Que peuvent faire des cris contre une décharge de mitraille? Aussi, voilà votre second bataillon étendu sur la pente. Alors, ce sont les chasseurs à pied de la garde, de vieux soldats qui l'ont dit de prendre la batterie et aller voir marcher. C'était guère captivant, pas de colonne, pas de cri, personne de tué. Tout juste une ligne de tirailleurs disséminés avec des pelotons de soutien. Mais au bout de 10 minutes, les batteries étaient réduites au silence et les artilleurs espagnols taillés en pièces. Oh, la guerre, mon jeune ami, c'est une chose qui s'apprend, tout comme l'élevage des boutons. « Peu, dis-je, pour ne pas me taire devant un étranger, si nous avions 30 000 hommes sur la crête de cette hauteur là-bas, vous en viendriez à être fort heureux d'avoir vos bateaux derrière vous. »« Sur la crête de la hauteur, » dit-il en promenant rapidement ses regards sur la crête. « Oui, si votre homme connaissait son affaire, il aurait sa gauche appuyée à votre maison, son centre à Corrubir, et à sa droite parla vers la maison du docteur avec une forte ligne de tirailleurs en avant. Naturellement, sa cavalerie manœuvrerait pour nous, coupée dès que nous serions déployés sur la plage, mais qui nous laisse seulement nous former, et nous saurons bientôt ce que nous avons à faire. Voilà le point faible, c'est le défilé ici. Oh, je le balayerai avec mes canons, je m'engagerai ma cavalerie, je pousserai l'infanterie en avant en forte colonne, et cette aile-ci se trouverait en l'air. Et Jack, vos volontaires, où seraient-ils ?
Sur les talons de votre dernier homme, dis-je, et nous partîmes tous deux de ces éclats de rire cordial par lequel finissaient d'ordinaire ces sortes de discussions. Parfois, lorsqu'il parlait ainsi, je croyais qu'il plaisantait. En d'autres moments, il n'était pas aussi facile de l'admettre. Je me souviens très bien qu'un soir de cet été-là, comme nous étions assis à la cuisine, lui, mon père, Jim et moi, et que les femmes étaient allées se coucher, il se mit à parler de l'Écosse et de ses rapports avec l'Angleterre.
Jadis, vous aviez votre droit à vous, et vos lois se faisaient à Édimbourg, dit-il. Ne vous sentez-vous pas plein de rage et de désespoir à la pensée que tout cela vient de Londres ?
Jim ôta sa pipe de sa bouche.
C'est nous qui avons imposé notre roi à l'Angleterre. Et si quelqu'un devait être enragé, ce serait ceux de là-bas.
Évidemment, l'étranger ignorait ce détail. Cela lui imposa silence un instant.
« Oui, mais vos lois sont faites là-bas, » dit-il enfin. « Et assurément, c'est pas avantageux. »
Non, il serait bon qu'on remît au Parlement Édimbourg, dit mon père. « Mais les moutons me donnent tant d'occupations que je n'ai guère le loisir de penser à ces choses-là. »«
Mais c'est aux beaux jeunes gens comme vous que revient le devoir d'y penser, » dit de Lapp. « Quand un pays est opprimé, ce sont ces jeunes gens qui doivent le venger. » »«
Oui, les Anglais en veulent trop pour eux quelquefois, » dit Jim.
« Eh bien, s'il y a beaucoup de gens qui partagent cette manière de voir, pourquoi n'en formerions-nous pas des bataillons afin de marcher sur Londres ?» s'écria de Lapp.
« Cela ferait une belle partie de campagne, » dis-je en riant. « Mais qui nous conduirait ?» Il se redressa, fit la révérence, en posant la main sur son cœur de sa bizarre façon.
« Oh, si vous vouliez bien me faire cet honneur !» s'écria-t-il.
Puis, nous voyant tous rire, il se mit à rire aussi, mais je suis convaincu qu'il n'avait pas voulu plaisanter le moins du monde. Je n'arrivais jamais à me faire quelque idée de son âge, et Jim Ashcroft n'y réussit pas mieux. Parfois, nous le prenions pour un vieux qui avait l'air jeune, et parfois, au contraire, pour un jeune qui avait l'air vieillot. Sa chevelure brune, raide, coupée court, n'avait nul besoin d'être coupée rare au sommet de la tête, où elle se raréfiait pour finir en une courbe polie. Sa peau était sillonnée de mille rides très fines, qui s'entrelaçaient, formaient un réseau. Elle était, comme je l'ai dit, toute recuite par le soleil. Mais il était agile comme un adolescent, souple et dur comme de la baleine, passait tout un jour à parcourir la montagne ou à ramer sur la mer sans mouiller un cheveu. Tout bien considéré, nous jugeâmes qu'il devait avoir 40 ou 45 ans, bien qu'il fût malaisé de comprendre comment il avait pu voir tant de choses à une telle période de sa vie. Mais un jour, on se mit à parler d'âge, et alors il nous fit une surprise.
Je venais de dire que j'avais juste 20 ans et Jim qu'il en avait 27.
Alors, je suis le plus âgé de nous trois, dit Dunlap.
Nous partîmes d'un éclat de rire, car à notre compte, il aurait parfaitement pu être votre père.
Mais pas de beaucoup, dit-il en relevant le sourcil. J'ai eu 29 ans en décembre.
Cette insertion, plus encore que ses propos, nous fit comprendre quelle existence extraordinaire avait été la sienne. Il vit notre étonnement et s'en amusa.
« J'ai vécu !» s'écria-t-il. « J'ai employé mes jours et mes nuits. Je n'avais que 14 ans que je commandais une compagnie dans une bataille où 5 nations prenaient part. J'ai fait pâlir un roi au mot que je lui ai chuchoté à l'oreille alors que j'avais 20 ans. J'ai contribué à refaire un royaume et à mettre un nouveau roi sur un grand trône l'année même où je suis devenu majeur. Mon Dieu, j'ai vécu ma vie. »
Et ce fut là ce que j'appris de plus précis d'après ses dires sur son passé. Lorsque nous voulions en savoir plus long de lui, il se bornait à hocher la tête ou à rire. Dans de certains moments, nous pensions qu'il n'était qu'un adroit imposteur, car pourquoi un homme qui avait tant d'influence et de talent serait-il venu perdre son temps dans le comté de Berwick? Mais un jour survint un incident bien fait pour nous prouver que sa vie avait en effet un passé très rempli. Comme vous vous en souvenez sans doute, nous avions pour très proche voisin un vieil officier de la guerre d'Espagne, le même qui avait dansé autour du feu de joie avec sa sœur et les deux bonnes. Il s'était rendu à Londres pour quelque affaire relative à sa pension et à son indemnité de blessure, et avec quelque espoir qu'on lui trouverait un emploi, de sorte qu'il ne revint que vers la fin de l'automne. Dès les premiers jours de son retour, il descendit pour nous rendre visite, et alors ses yeux se portèrent pour la première fois sur Dunlap. Jamais de ma vie je ne vis physionomie exprimer pareille stupéfaction. Il regarda fixement notre hôte pendant une longue minute, sans dire seulement un mot. Dunlap lui rendit ce regard avec la même persistance, mais sans que rien indiquât qu'il le reconnaissait.
Je ne sais qui vous êtes, monsieur, dit-il enfin, mais vous me regardez comme si vous m'aviez déjà vu.
En effet, je vous ai vu, dit le major. Oh, jamais que je sache, mais je le jure.
Où donc alors?
Ben, au village d'Astorga, en 1800. Dunlap sursauta, regarda encore notre voisin.
« Mon Dieu ! » s'écria-t-il. « Quel hasard ! Et vous êtes le parlementaire anglais ?
Oh, je me souviens fort bien de vous, monsieur. Permettez-moi de vous dire un mot à l'oreille. » Il le prit à part, causa en français avec lui d'un air très sérieux pendant un quart d'heure, gesticulant des mains, donnant des explications, pendant que le major hochait de temps à autre sa vieille tête grisonnante. À la fin, ils parurent s'être mis d'accord pour quelques conventions, et j'entendis le major dire à plusieurs reprises « Parole d'honneur !» et ensuite « Fortune de la guerre !» mot que je compris fort bien, car Shibbert Whistler nous poussait fort loin. Mais depuis, je remarquais constamment que le major ne se laissait jamais aller à la même familiarité de langage dont nous usions avec notre locataire, qu'il s'inclinait en lui adressant la parole et qu'il lui prodiguait les marques de respect. Plus d'une fois, je demandais au major ce qu'il savait à ce sujet, mais il se déroba toujours, et je ne pus rien tirer de lui. Jim Roscroft passa tout cet été à la maison, mais vers la fin de l'automne, il retourna à Édimbourg pour les cours d'hiver, car il se proposait de travailler assidûment et d'obtenir son diplôme au printemps prochain, s'il pouvait, et il reviendrait passer la Noël. Il y eut donc une grande scène d'adieu entre lui et la cousine Eddie. Il devait faire poser sa plaque et se marier dès qu'il aurait le droit d'exercer. Je n'ai jamais vu un homme aimer une femme avec une telle tendresse, et elle avait de son côté quelque affection pour lui à sa manière, et en effet elle eut cherché en vain dans toute l'Écosse un plus bel homme que lui. Cependant, quand il était question de mariage, elle faisait une légère grimace, en songeant que tous ses rêves mirifiques aboutiraient à n'être que la femme d'un médecin de campagne. Mais, tout bien considéré, elle n'avait de choix qu'entre Jim et moi, et elle se décida pour le meilleur des deux. Naturellement, il y avait bien aussi de l'âpre, mais nous le sentions d'une classe tout à fait différente de la nôtre, donc il ne comptait pas. En ce temps-là, je ne fus jamais bien fixé sur ce point. Eddie se préoccupait-elle ou non de lui ? Quand Jim était à la maison, ils ne faisaient guère attention l'un à l'autre. Après son départ, ils se rencontrèrent plus souvent, ce qui était assez naturel, car Jim avait pris une grande partie du temps d'Eddie. Une fois ou deux, elle me parla de Lap comme si elle ne le trouvait pas à son gré, et pourtant elle n'était pas à son aise lorsqu'il n'était pas là le soir. Eddie, plus qu'aucun de nous, se plaisait à causer avec lui, à lui faire mille questions. Elle se faisait décrire par lui les costumes des reines, dire sur quelle sorte de tapis elles marchaient, si elles avaient des épingles à cheveux dans leur coiffure, combien de plumes elles portaient à leur chapeau. Et je finissais par m'étonner qu'il trouvât réponse à tout cela. Et pourtant, il avait toujours une réponse. Il jouait de la langue avec tant de dextérité, de vivacité. Il montrait tant d'empressement à l'amuser que je m'en demandais comment il se faisait qu'elle n'eût pas plus d'affection pour lui. Bref, l'été, l'automne et la plus grande partie de l'hiver se passèrent et nous étions encore tous très heureux ensemble. L'année 1815 était déjà fortement entamée. Le grand empereur vivait toujours à l'île d'Elbe, se rongeant le cœur. Tous les ambassadeurs réunis à Vienne continuaient à se chamailler sur la façon de se partager la peau du lion, maintenant qu'il l'avait réduit aux abois pour tout de bon. Quant à nous, dans notre petit coin de l'Europe, nous étions tout absorbés par nos menus et pacifiques occupations, le soin des moutons, les voyages au marché de bestiaux de Berwick et les causeries du soir devant le grand feu de tourbe. Nous ne nous figurions guère que les actes de ces hauts et puissants personnages puissent avoir une influence quelconque sur nous. Quant à la guerre, eh bien, n'était-on tous pas d'accord pour admettre que la grande ombre avait disparu pour toujours de dessus nos têtes, et que si les alliés ne se prenaient pas de querelles entre eux, il se passerait 50 autres années avant qu'il se tirât en Europe un seul coup de fusil. Il y eut pourtant un incident qui se dresse en contour très fort dans ma mémoire. Il survint, je crois, vers la fin de février de cette année-là, et je vous le conterai avant d'aller plus loin. Vous savez, j'en suis sûr, comment sont faites les tours d'alarme de la frontière. Ce sont des masses carrées, disséminées de distance en distance le long de la ligne de partage, et construite de façon à donner asile et protection aux gens du pays contre les maraudeurs et les bandits. Lorsque Percy et ses hommes étaient partis pour les marches, on amenait une partie de leur bétail dans la cour de la tour, on fermait la grosse porte et on allumait du feu dans les brasiers placés au sommet. C'était un signal auquel devaient répondre de même les autres tours d'alarme. Les lueurs clignotantes franchissaient ainsi les hauteurs de la mer Muir et portaient les nouvelles jusqu'à Pentland, puis à Édimbourg. Mais maintenant, comme on le pense bien, tous ces antiques donjons étaient gondolés, croulants, et offraient aux oiseaux sauvages des emplacements superbes pour leurs nids. J'ai récolté un bon nombre de beaux œufs pour ma collection dans la tour d'alarme de Corrymuir. Un jour, j'avais fait une longue marche pour aller porter un message aux Armstrong de Laidlaw, qui demeure à 2 miles en deçà d'Highton. Vers 5 heures, au moment même où le soleil allait se coucher, je me trouvais sur le sentier de la lande de façon à voir exactement devant moi le pignon de West Inch, tandis que la vieille tour d'alarme était un peu à ma gauche. Je considérais à loisir le donjon qui faisait un effet fort pittoresque pour le flot de lumière rouge qui déversait sur lui les rayons horizontaux du soleil et la mer s'étendant au loin en arrière. Et comme je regardais avec attention, j'aperçus soudain la figure d'un homme qui se mouvait dans un des trous du mur. Naturellement, je m'arrêtai, étonné de cela, car que pouvait faire un individu quelconque dans cet endroit et à ce moment-là, car l'époque de la nidification n'était pas encore venue. C'était si singulier que je me déterminai à tirer l'affaire au clair. Donc, malgré ma fatigue, je tournai le dos à la maison et me dirigeai d'un pas rapide vers la tour. L'herbe monte jusqu'au bas même du mur et mes pieds ne firent que peu de bruit jusqu'au moment où j'arrivai à l'arc coulant où se trouvait jadis l'entrée. Je jetai un coup d'œil furtif dans l'intérieur. C'était Bonaventure de Lappe qui était là, debout dans l'enceinte, et qui regardait par ce même trou où j'avais vu sa figure. Il était tourné de profil par rapport à moi. Évidemment, il ne m'avait pas vu du tout, et car il regardait de tous ses yeux dans la direction de West Inch. Je fis un pas en avant. Mes pieds firent craquer les décombres de l'entrée. Il sursauta, fit demi-tour, et se trouva tourné vers moi. Il n'était pas de ceux à qui on peut faire perdre contenance, et sa figure ne changea pas plus que s'il était là depuis un an à m'attendre. Mais il y avait dans l'expression de ses yeux quelque chose qui me disait qu'il aurait payé une somme assez ronde pour me revoir prendre le sentier. « Hello, » dis-je. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je pourrais vous faire la même question, » dit-il. « Non, oh, je suis venu parce que j'ai vu votre figure à la fenêtre. »« Et moi, parce que, comme vous avez pu fort bien vous en apercevoir, je m'intéresse très vraiment à tout ce qui a un cas rapport quelconque avec la guerre, et naturellement, les châteaux sont de ce nombre. » Vous m'excuserez un moment, mon cher Jacques. » Puis, s'avançant, il s'élança soudain par l'ouverture du mur, de manière à n'être plus sous mes yeux. Mais ma curiosité était beaucoup trop excitée pour l'excuser aussi facilement. Je me hâtai de changer de place afin de voir ce qu'il faisait. Il était debout au dehors et agitait la main avec une ardeur fébrile, comme pour faire un signal. Mais qu'est-ce que vous faites ? Criai-je. Et aussitôt je sortis en courant pour me placer près de lui et chercher du regard sur la lande à qui il faisait ce signal.
Ben, « Vous allez trop loin, monsieur, » dit-il d'un ton irrité. « Je ne croyais pas que vous iriez aussi loin. Un gentleman est libre d'agir comme il l'entend, sans que vous veniez l'espionner. Oh, si nous devons rester amis, vous ne devez pas vous mêler de mes affaires. »
« Je n'aime pas ces façons mystérieuses, » dis-je, « et mon père ne les aimerait pas davantage. »
« Votre père peut s'en expliquer lui-même, il n'y a rien de secret, » dit-il d'un ton sec. « C'est vous qui faites tout le secret avec vos imaginations. » « Attends, ça tise ma patiente. »
Mais sans me faire seulement un signe de tête, il me tourna le dos et d'un pas rapide se mit en route vers West Inch. Je le suivis. Et d'aussi mauvaise humeur que possible, car j'avais le pressentiment de quelque méfait qui se tramait, et cependant je n'avais pas la moindre idée du monde de ce que cela pouvait être. Et j'en revins, sans m'en apercevoir, à songer à tous les incidents mystérieux de l'arrivée de cet homme et de son long séjour au milieu de nous. Mais qui donc pouvait-il attendre à la tour d'alarme ? Ce personnage était-il un espion qui avait un collègue en espionnage qui venait en cet endroit pour lui parler? Non, cela était absurde. Que pouvait-il bien venir espionner dans le comté de Berwick? Et d'ailleurs, le major Elliot savait parfaitement à quoi s'en tenir sur lui et ne lui eût pas témoigné autant de respect s'il y avait eu quelque chose de suspect. J'en étais arrivé à ce point-là au cours de mes réflexions, quand je m'entendis saluer par une voix joyeuse. C'était le major en personne qui descendait la côte venant de chez lui, tenant en laisse son gros bulldog Bounder. Ce chien était un animal des plus dangereux, et il avait causé maint accident aux environs, mais le major l'aimait beaucoup et ne sortait jamais sans lui, tout en le tenant à l'attache au moyen d'une bonne et forte courroie. Or, comme je regardais venir le major et que j'attendais son arrivée, il buta de sa jambe blessée par-dessus une branche de genêt. En reprenant son équilibre, il lâcha la courroie, et aussitôt voilà ce maudit animal parti à fond de trait de mon côté, au bas de la côte. Cela ne me plaisait guère, je vous en réponds, car je n'avais à ma portée ni un bâton ni une pierre, et je savais cette bête dangereuse. Le major l'appelait de là-haut par des cris perçants, mais je crois que l'animal prenait ce rappel pour une excitation, car il n'en courait que plus furieusement. Mais je connaissais son nom et j'espérais que cela me vaudrait peut-être les égards dus à une vieille connaissance. Aussi, quand il fut presque sur moi, son poil hérissé et son nez enfoncé entre deux yeux rouges, je criai de toute la force de mes poumons « Bounder ! Bounder !» Or, cela produisit son effet, car l'animal me dépassa en grondant et partit par le sentier sur les traces de Bonaventure de Lappe. Celui-ci se retourna à tout ce bruit et parut comprendre au premier coup d'œil de quoi il s'agissait, mais il continua à marcher sans plus presser. J'étais terrifié pour lui car le chien ne l'avait jamais vu. Je courus de toute la vitesse de mes jambes pour écarter de lui l'animal. Mais je ne sais comment, quand il bondit et qu'il aperçut le jeu de doigts que faisait de l'âme derrière son dos avec le pouce et l'index, sa furie tomba tout à coup, et nous le vîmes agitant son tronçon de queue et lui caressant le genou avec sa patte. C'est donc votre chien, major, dit-il à son maître qui arrivait en boitant. Bon, c'est une belle bête, une jolie créature.
Le major était tout essoufflé, car il avait fait le trajet presque aussi vite que moi.
J'avais peur qu'il vous fît du mal, dit-il tout haletant.
Ta ta ta, s'écria de Lappe.
C'est un joli animal, bien doux. Mais j'ai toujours aimé les chiens. Mais je suis content de vous avoir rencontré, major. Car voici ce jeune gentleman auquel je suis redevable de beaucoup et qui commençait à me prendre pour un espion. N'est-ce pas vrai, Jack?
Je fus si abasourdi par ce langage que je ne trouvais pas un mot à répondre. Je me contentais de rougir et de détourner les yeux de l'air gauche d'un campagnard que j'étais.
Vous me connaissez, major, dit de Lappe, et vous allez lui dire, j'en suis sûr, que cette chose est absolument impossible.
Non, non, Jack, certainement non, certainement non, s'écria le major.
Merci, dit de Lappe. Vous me connaissez, vous me rendez justice. Et vous-même, j'espère que votre genou va mieux et qu'on vous en redonnera bientôt votre régiment.
Oh, me porte assez bien, répondit le major, mais on ne me donnera jamais d'emploi, à moins qu'il y ait une guerre. Il n'y aura plus de guerre de mon vivant.
Ha, ha, vous croyez cela ? Dit Lappe avec un sourire.
Eh bien, nous verrons, mon ami.
Il ôta son chapeau, puis faisant vivement demi-tour, il se dirigea d'un bon pas du côté de West Inch. Le major resta à le suivre des yeux, l'air pensif. Puis il me demanda ce qui m'avait fait croire qu'il était un espion. Quand je le lui eus dit, il ne répondit rien, hocha seulement la tête, et il avait l'air d'un homme qui n'a pas l'esprit bien tranquille.